Ce matin, je vous invite à ouvrir avec moi la parole de Dieu dans le livre des Juges. Nous allons lire d'abord au chapitre 5, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Livre des Juges, chapitre 5, verset 6. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Il avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 000 en Israël. Mon cœur est au chef d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Amen. Vous avez remarqué, il est dit au temps de Shamgar, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Alors nous allons découvrir ce que Shamgar, précisément, dans une situation semblable, a réalisé, a accompli, et il va nous servir d'exemple. Cela, c'est au chapitre 3 et au verset 31. Un verset très court. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Et puis, nous allons alors cette fois dans l'autre sens, au chapitre 5 et le verset 24. Pour découvrir ce que Jaël, dans la même période, elle aussi a réalisé, a accompli. Juges, chapitre 5, le verset 24. Béni soit entre les femmes Jaël, femme de Héber le Kénien, béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Il demanda de l'eau, elle a donné du lait, dans la coupe d'honneur elle a présenté de la crème. D'une main elle a saisi le pieu et de sa droite le marteau des travailleurs. Elle a frappé Sisera, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël, il s'est affaissé, il est tombé, il s'est couché. À ses pieds, il s'est affaissé, il est tombé. Là où il s'est affaissé, là, il est tombé sans vie. Amen. On va demander au Seigneur de nous guider dans la méditation de sa parole. Seigneur, merci pour ce rassemblement et merci pour le temps que nous avons pu passer dans la communion fraternelle à te louer et à célébrer ton nom. Tu es le grand vainqueur, et nous nous sentons tous tellement bien en ta présence. Tu es le seul qui puisse apporter à notre cœur de l'assurance, une suprême consolation, une grande paix, en même temps une grande force. Et je te prie que pendant ces instants de méditation de ta parole, Seigneur, toi, tu graves ta pensée en nous. Viens-nous en aide. Mes frères et sœurs ici présents et moi-même, nous avons besoin de toi. Que ton onction repose sur nous. Et s'il te plaît, que ce que nous allons concevoir dans notre cœur, que ce que nous allons recevoir de ta part, nous soyons capables aussi de le vivre. Aide-nous. Seigneur, nous comptons sur toi, et sur cette action suprême de ton esprit. À toi seul soit toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler ce que le livre des Juges nous dit au sujet de cette période tellement particulière. Sinon que de vous rappeler simplement qu'il est écrit qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de roi et chacun faisait ce que bon lui semble. Et bien entendu, le peuple de Dieu s'étant éloigné de l'obéissance au commandement du Seigneur, de la loi de l'Éternel, est tombé sous le joug tyrannique de l'ennemi. Et comme l'ennemi était à l'œuvre au milieu de ce peuple, alors la crainte a gagné tous les cœurs, et c'est ce qui explique qu'il est dit dans le texte que nous avons choisi que les routes, en ce temps-là, n'étant pas sûres, ont été abandonnées et que les voyageurs prenaient des chemins détournés. La crainte de l'ennemi faisait que tous les voyageurs en Israël à cette époque étaient dans, je dirais, une manière de se conduire insensée, oubliant la voie royale et prenant des chemins qui n'étaient pas ceux que Dieu souhaitait. Vous savez, mes frères et sœurs, nous faisons partie, vous et moi, du royaume de Dieu. Quand nous nous sommes tournés vers le Seigneur, nous nous sommes approchés du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu n'est pas sans préceptes. Le royaume de Dieu n'est pas sans loi. Le royaume de Dieu n'est pas sans règles. Nous avons besoin de comprendre que ce que le Seigneur désire par-dessus tout, c'est que nous soyons obéissants à tout ce qu'il a transmis au travers de sa parole qui a été inspirée par le Saint-Esprit. Par exemple, je suis en France. Et s'il arrivait un étranger parmi nous, je vais prendre le cas d'un habitant d'Angleterre, de rouler dans notre pays comme il roule dans son pays, la police française interviendrait pour lui rappeler qu'en France, on ne roule pas à gauche, mais que l'on roule à droite. Et il devrait se soumettre à cela, parce que c'est une loi de notre pays. Si j'allais, moi, par contre, en Angleterre, le Royaume-Uni, et que je roulais en sens inverse de ce que font les Anglais, c'est moi qui serais arrêté dans le Royaume-Uni et je devrais payer les conséquences de mes turpitudes. Le royaume de Dieu n'est pas sans règles. Le royaume de Dieu n'est pas sans loi. Mais nous avons un privilège formidable. C'est que pour obéir à Dieu et nous soumettre à sa parole, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Si nous devions compter uniquement sur nos forces, eh bien, bien vite, nous devrions constater, comme d'ailleurs beaucoup l'ont déjà fait, que nous sommes incapables de faire la volonté de Dieu. C'est ce qui explique que Paul lui-même, dans une certaine circonstance, a dit « Misérable que je suis, à l'intérieur de moi-même, je sais ce qu'est la volonté de Dieu. Et quand je veux accomplir la volonté de Dieu, c'est malgré moi, je fais le contraire de ce que Dieu veut. » C'est la raison pour laquelle il a crié à Dieu, et vous connaissez son cri, il a invoqué son nom, et d'un seul coup, alors c'est un cri de victoire et de délivrance qui retentit de sa bouche, et il dit « Grâce soit rendue à Jésus-Christ, parce que par lui, tout est possible. » Ce n'est pas une loi de l'extérieur qui nous pousse à faire ce que nous ne pouvons pas faire naturellement, mais c'est un principe de vie qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous permet de réaliser ce que nous sommes incapables par nous-mêmes, parce que c'est la puissance de la vie de résurrection de Christ en nous qui accomplit toutes choses, et quand Christ le fait, c'est toujours merveilleux. Ce que nous faisons par les efforts de la chair est voué à l'échec. Ce que nous faisons dirigé, conduit par l'Esprit, en laissant Christ régner sur notre cœur, ça, c'est un aboutissement formidable et c'est la victoire. Mes frères et sœurs, revenons à notre texte. Les routes étaient abandonnées. Il y a dans la Bible des routes qui mènent d'une manière certaine à une véritable bénédiction. Mais il arrive parfois, comme c'est arrivé à ce peuple d'Israël, de nous écarter des voies que Dieu a tracées. Et les prophètes ont souvent interpellé le peuple pour qu'il puisse retrouver les voies de la bénédiction. Je voudrais vous citer par exemple ce que le prophète Jérémie lui-même dit au chapitre 6 de son livre et au verset 16. Regardez cette exhortation tellement simple, compréhensible de tous. Il dit « Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie et marchez-y. » Vous remarquez que Jérémie ne met pas en évidence de nouveaux sentiers, de nouvelles voies, il ne met pas en évidence des nouveautés pour retrouver la bénédiction. Il dit « Demandez quels sont les anciens sentiers et marchez-y. » Quand je lis le livre des Actes des Apôtres, alors je découvre dans ce livre-là des voies qui ont été suivies par le peuple de Dieu, par l'Église au commencement. Et qu'est-il dit au chapitre du livre des Actes des Apôtres, notamment au chapitre 2, après l'action puissante et souveraine du baptême dans le Saint-Esprit, les conséquences heureuses dans l'Église ont été quoi? Il est dit que tous les chrétiens, à ce moment-là, eh bien, ensemble, marchaient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières, et cela a eu une conséquence formidable. Ce que ça produit, c'est la crainte de Dieu dans chaque cœur. Et comme la crainte de Dieu a gagné tous les cœurs, alors regardez la conséquence, parce que quand Dieu agit, c'est formidable. Beaucoup de signes, beaucoup de prodiges et des choses formidables s'accomplissaient par les mains des apôtres. Mais au départ, il y avait ces chemins-là. L'enseignement des apôtres, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas échapper à une saine doctrine. La parole de Dieu doit être notre règle de conduite dans tous les domaines. Quand on lit avec attention la parole de Dieu, elle s'adresse à nous dans tous les domaines de notre existence. Elle parle pour notre vie individuelle, personnelle. Elle parle pour notre vie de couple. Elle parle pour notre vie de famille. Elle parle pour nos relations dans la communion fraternelle au sein de l'Église. Elle parle de sanctification sans laquelle on ne pourra pas voir le Seigneur. Mais non pas cette sanctification qui est le résultat des efforts de la chair, non pas la sanctification de la la chair, mais celle qui est produite par l'Esprit de Dieu et qui nous amène à être semblables à celui qui nous a tant aimés, c'est-à-dire Jésus, le Fils de Dieu. Car le but du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans cette direction-là. Et il a ouvert pour nous une route nouvelle et vivante. Par quel moyen ? Par le moyen de son sacrifice. Et il nous demande à le suivre. La route qui conduit à la bénédiction, c'est la route de la consécration, c'est le chemin de la croix. Et le chemin de la croix n'est pas un chemin facile. Le chemin de la croix, c'est un chemin difficile. Il ne faut pas que nous nous fassions des illusions à ce sujet-là. On ne peut pas suivre le Seigneur sans connaître des tribulations, sans connaître des épreuves, sans connaître des difficultés. Et c'est la raison pour laquelle, mais nous le verrons dans un instant, Shamgar lui-même, dont le nom signifie « garder soigneusement ». J'attire votre attention sur ce fait. Gardez soigneusement. Avant d'aller plus loin, que dit la parole de Dieu au sujet de notre propre cœur ? Il est écrit, et je sais que vous connaissez cela, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Parce que de ce cœur-là viennent tous les sentiers de la vie. Et si nous ne veillons pas sur notre propre cœur, alors que va-t-il se passer ? Au lieu d'être dominé par l'Esprit de Dieu, c'est la chair qui va dominer. Or, nous savons bien quelle est l'exhortation de tous les apôtres quand ils nous disent « Mais marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. » Et voyez-vous, nous devons être très attentifs à cela. Gardez notre cœur. Pourquoi garder notre cœur ? Tiens, vous avez lu avec moi, dans le premier passage que nous avons cité, il est dit « Le peuple de Dieu avait choisi de nouveaux dieux ». Or, la Bible nous dit dans l'épître de Paul aux Corinthiens qu'il n'y a pas d'autre dieu. Il dit clairement, Paul, il n'y a pas d'idole. Le seul et véritable Dieu, c'est celui que nous servons. C'est le Dieu d'Israël, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, celui à qui nous devons tout, auquel nous rendons un culte qui lui est agréable. Mais là, le peuple a choisi d'autres dieux. Ça veut dire quoi ? C'est quoi avoir des idoles ? C'est pas seulement se prosterner devant des statues en or, en plâtre, en bois, en argent. L'idole, c'est ce qui prend la première place à Dieu et que nous devons lui réserver. Or, dans notre vie, bien souvent, que de choses sont prioritaires, que de choses, dans le fond, captivent notre intérêt, plus que le Seigneur lui-même, plus que Dieu lui-même. Et alors, qu'est-ce qui arrive ? Il est dit, alors, la guerre était aux portes. Ça veut dire quoi, ça, la guerre aux portes ? Alors, je vais vous faire un rappel d'un texte de l'Écriture que vous connaissez, j'en suis sûr, aussi bien que moi. Vous connaissez l'histoire de Caïn. Comment, après avoir mal agi, mais il l'a fait peut-être, comment dirais-je, sans comprendre bien le plan de Dieu. Alors, il a offert le résultat de son travail, le résultat de ses œuvres. Et quand il a offert cela, et alors que son frère lui avait offert un animal, un sacrifice, qui était déjà le symbole de ce que Jésus allait accomplir beaucoup plus tard, pour que nous soyons justifiés aux yeux de l'Éternel. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a honoré le sacrifice d'Abel, mais il n'a pas pu accepter le sacrifice de Caïn. Nous comprenons tous pourquoi. Et Caïn en a ressenti de l'amertume, de la haine. Et Dieu lui a parlé avec amour à ce moment-là. Et il lui a dit, le péché couche à ta porte. À ta porte. Vous avez découvert là, c'est exactement la même chose. Le péché est là, à ta porte. Mais si tu agis bien, tu te relèveras. Là, pour lui, c'était une occasion formidable. C'était de reconnaître son erreur, de prendre en considération quel était le plan de Dieu. Et c'est tellement merveilleux de prendre en considération le plan de Dieu. Dites-moi, mes frères et sœurs, comment pourrions-nous dire que nous sommes heureux si nous n'avions accepté le plan rédempteur de Dieu ? Mais c'est une chose formidable. Et s'il avait reconnu simplement cela, eh bien, il aurait été relevé. Mais non ! Il s'est endurci. Et là, en ce qui concerne le peuple de Dieu, il est dit, la guerre était aux portes, malheureusement. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 000 en Israël. C'est-à-dire, ils étaient dépourvus de moyens de défense. Si on n'a pas cette relation avec Dieu, eh bien, dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve, dans les moments de combat, dans les moments de lutte, dans les moments où le diable nous tente, mais nous sommes comme des armées. Pourtant, Dieu met à notre disposition le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit. Nous avons la cuirasse également, qui est là, de la justice de Dieu. Tout cela, nous pouvons l'utiliser, mais à une seule condition, que nous soyons cachés en Christ. Parce que qui est notre justice ? C'est Christ. Qui est notre sanctification ? C'est Christ. Et quand nous sommes cachés en lui, le diable ne peut pas nous atteindre. Il ne nous atteint que lorsque nous sommes en dehors de ce que nous venons de citer. Alors, c'était une situation bien triste. Sauf que, il y avait des hommes, je vous ferai remarquer une chose, Shamgar, duquel nous allons parler dans un instant, et que nous avons déjà cité, je ne vois nulle part qu'il porte le titre de juge. Je ne vois pas non plus dans la chronologie de l'histoire du peuple de Dieu qu'il était appelé comme tel. Mais en tous les cas, il a été un homme qui a permis à ceux de sa génération, dans un contexte très difficile que nous venons de décrire, de remporter une victoire formidable, puisque à lui tout seul, eh bien, il a terrassé, comme c'est ridicule, avec un aiguillon à bœuf, il a terrassé 600 Philistins. Quand c'est l'ennemi qui a le dessus sur nous, alors la crainte s'empare et on est là recroquevillé sur nous-mêmes, on n'ose plus prendre certaines décisions, on est dans une attitude négative et là, lui, il est sorti de cette attitude-là. Alors, les incrédules, qu'est-ce qu'ils pouvaient dire, les incrédules ? Comment cet homme peut-il nous aider ? Comment cet homme peut-il nous secourir ? Un aiguillon à bœuf ? Écoutez, mes frères et sœurs, je vais vous dire, je suis un enfant de la campagne. Je suis né dans un village où il y avait plus de vaches que d'habitants. Alors j'ai déjà eu l'occasion de voir comment on conduisait les bœufs et les vaches. Et vous savez, un aiguillon à bœuf, c'est pas une arme bien redoutable. Seulement, celui qui dirige, qui conduit, c'est par ce moyen-là qu'en piquant un petit peu comme cela, il amène le bœuf ou la vache à suivre la direction que lui désire devoir prendre. Mais vous en conviendrez, ce n'est pas une arme sensationnelle. Eh bien, les incrédules, ils peuvent dire, comme c'est ridicule, qu'est-ce qu'on peut faire avec un aiguillon à bœuf ? Vous serez d'accord avec moi pour reconnaître, ce n'est pas l'aiguillon qui a tué les Philistins. C'est Dieu. Que pouvait faire un homme avec cet aiguillon ? Dites-moi, mes frères et sœurs, livrés à nous-mêmes, mais j'en ai entendu plusieurs parmi vous ce matin parler très sincèrement avec le cœur en disant, Seigneur, il y en a un qui a dit, mais moi je suis pauvre, mais il a ajouté, mais toi tu es riche. Puis il y en a d'autres qui ont dit, mais Seigneur, nous nous sentons tellement faibles, tellement misérables. Mais tout ça c'est vrai, mes frères et sœurs, nous ne sommes rien
mais il est tout. Et si notre confiance est placée en lui, c'est pas nous qui allons triompher, c'est lui. Notre force, c'est lui. Notre puissance, c'est lui. Et tout ce dont nous avons besoin se trouve en lui. Non pas dans les moyens qui sont les nôtres. Quels moyens avons-nous? J'ai l'impression ici de devoir rappeler ce que Paul a dit à une certaine église quand il disait, bah, vous savez, hein, parmi nous, il n'y a pas beaucoup de grands, pas beaucoup de puissants. Il y a ici peut-être des personnages, peut-être qui au sein même de cette société, avec la vision de ce monde, représentent quelque chose. Tant mieux, c'est peut-être vrai tout cela. Mais même tout ce que vous avez comme talent, tout ce que vous pouvez avoir comme dons spéciaux et qui sont utiles dans ce monde, ne servent à rien dans le royaume de Dieu, à moins que il ne soit passé à la croix. Parce que là, alors, il y a une transformation. Et quand on passe à la croix, alors là, on reçoit quelque chose qui est tellement différent. Et Shangar, il l'a prouvé. Il ne s'est pas laissé décontenancer, mais il a été un exemple. Il a gardé soigneusement. Écoutez ce que Paul dit à Timothée, son jeune collègue. Il dit à un moment donné, garde le dépôt de la foi. Vous savez, mes frères et sœurs, ça c'est très important. C'est à ce niveau-là que nous devons aussi mener un certain combat. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de dire que telle dénomination est meilleure que telle autre, que tel titre est supérieur à tel autre. Quand nous en aurons fini avec cette sorte de stupidité, nous nous en retrouverons mieux. Parce que ce qui est à mettre en évidence, c'est l'Église avec un grand E de Jésus-Christ, composée, savez-vous de qui? D'hommes et de femmes qui sont nés de nouveau. ADD, je m'en fiche, pardon. Hein. FEDEB, je m'en fiche. J'en suis le président. Tout ça, ça vaut rien. Ce qui vaut, c'est que nous soyons cachés en Christ. Le chef de l'Église, c'est Christ. Et si nous sommes attachés à la vérité et que nous gardons le dépôt, alors Dieu veillera aussi sur nous. Si nous, nous veillons sur ce qu'il a écrit et établi, alors lui, il s'occupe de veiller sur nous et ne pas nous laisser entre les mains de l'ennemi qui ne cherche qu'une seule chose, dérober, égorger et détruire. Mais enfin, nous avons un bon berger. Et le bon berger, eh bien, c'est lui. Et il faut que nous lui fassions confiance. Garde le bon dépôt. C'est une chose très importante. Veillons à cela, que la parole de Dieu, elle soit chérie de nos cœurs, que nous la serrions dans notre cœur, pour vivre non pas selon notre propre volonté, mais selon ce qui est écrit. La volonté de Dieu, quelle qu'elle soit, mes frères et sœurs, elle est bonne, agréable et parfaite. Et j'ajoute que tout ce qu'il permet, même si quand nous le considérons simplement extérieurement est quelque chose de dégradant, je vous assure, quelle que soit la chose que Dieu permet, c'est toujours pour notre bien. Volonté de Dieu agréable, bonne et parfaite, ne l'oublions pas. Bien, j'en arrive au deuxième personnage, puisque ce sont les deux personnages qui ont été cités en relation avec les routes abandonnées et les chemins détournés. Je vous parlerai un petit instant tout à l'heure de ce que peuvent représenter ces détours. Mais le deuxième personnage, c'est assez intéressant. D'abord, c'est une femme, Jaël. Ce qui est impressionnant et assez amusant, c'est la signification de son nom. Est-ce que vous le connaissez? Non. Chèvre sauvage. Il en faut quelques-unes, vous voyez, dans le troupeau de Dieu. Il y a des chèvres sauvages, il vaut mieux pas les avoir en face.
Mais il y en a d'autres, comme elle, qui ont une certaine valeur. Jaël, chèvre sauvage. Oui, sauvage peut-être parce que finalement, il y a quelque chose qui s'est passé. Sur un point, peut-être elle n'avait pas été tout à fait attentive. Elle était unie à un homme, écoutez bien, qui avait traité alliance avec l'ennemi. L'ennemi d'Israël à ce moment-là s'appelle Jabin. Et c'était un homme féroce. Il était le chef des Philistins, il voulait écraser le peuple de Dieu. Et le mari de Jaël, Héber, le Kétien... Ah, rien à voir avec le pasteur Héber, hein. Oubliez cela. C'est le même nom, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Héber, lui, il avait traité alliance avec Jabin, si bien que sa tente était toujours ouverte pour recevoir l'ennemi du peuple de Dieu dans certaines circonstances. Vous savez, c'était le bonhomme qui ne savait pas très bien sur quel pied danser. D'un côté, c'était bien avec Israël, il devait apprécier certainement sa femme, cette chèvre sauvage. Et puis de l'autre côté, il disait, mais bon, il faut être en bonne position, en bonne relation aussi avec l'ennemi. Alors il avait traité alliance, et dans sa tente, eh bien, il pouvait se passer n'importe quoi. Mais Jaël, elle a pris une certaine position. J'appellerai la foi qu'elle a manifestée une foi sans compromis. Elle avait saisi que déjà le compromis qu'elle avait fait avec un tel mari, c'était suffisant. Maintenant, elle avait décidé que la foi sans compromis devait l'amener à prendre une position ferme. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Eh bien, vous savez... Quand on se trouve comme ça, comme le mari de Jaël l'avait fait dans cette situation plus ou moins hypocrite, eh bien, l'ennemi Sisera, qui était le général de Jabin, ils étaient trouvés en difficulté. Sisera, il avait pris la fuite et il avait trouvé un refuge dans la tente, justement, de cette femme. Déjà là, il y avait une erreur, surtout en Orient. On ne se permet pas de rentrer dans la tente d'une femme de cette manière-là. Mais elle a accepté, là, et le monsieur qui venait de subir une défaite écrasante vivait dans la soif, et il a dit, donne-moi de l'eau, je vais t'en donner de l'eau. Elle est allée chercher du lait, elle lui a donné mieux que de l'eau, du lait, et elle a même apporté de la crème. Elle a vraiment gâté, hein. Et puis, elle l'a laissé s'endormir. Et au moment où, à cause de la fatigue, il s'est endormi, c'est un texte qui me met toujours le frisson, n'est-ce pas, quand on le découvre, c'est assez surprenant. Elle s'est approchée doucement de cet homme, elle a pris un pieu, moi je dis, c'est comme une lance, et vous voyez, ce pieu-là, il représente l'autorité du nom de Jésus. Elle a approché comme ça de la tente, elle a pris le marteau, rappelez-vous de ce que Jérémie dit au sujet de la parole de Dieu, quand il dit la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc, elle a pris ces deux choses-là, elle a frappé fort et l'a cloué sur place. Vous allez dire, mais c'est horrible, c'est cruel. Mes frères et sœurs, Dieu nous demande de faire la même chose, non pas avec les personnes. Notre Dieu est un Dieu d'amour, mais de faire la même chose avec le péché. Vous savez, quand Jézabel, la femme de Akab, a voulu séduire celui qui venait de la part de l'Éternel, vous connaissez bien l'histoire, elle s'est mise à la tour, à un certain étage, et puis elle a mis du phare dans les yeux, elle est le symbole même du péché qui cherche à séduire, elle arrive à la fenêtre, et elle dit, alors, nouveau Zimri,
Vous savez que celui qui conduisait le char était un homme extrêmement zélé et il était poussé par Dieu. Peut-être même que lui, il est allé au-delà de ce que Dieu voulait. Mais en tous les cas, il était dans la voie de l'Éternel. Il fallait aller jusqu'au bout. Et quand elle est apparue comme cela, en voulant séduire cet homme n'a pas fait de quartier. Il a vu qu'au-dessus, il y avait deux eunuques, serviteurs de cette femme, qui regardaient. Et il a simplement dit, « Qui est pour moi ? Qui ?» J'aimerais que ce matin, vous entendiez la voix de Jésus et non pas d'un pasteur, vous dire « Qui est pour moi ? Qui ?» Dans ce monde actuel, avec tout ce qui se passe, avec ces catastrophes, même dans les systèmes évangéliques, avec toutes ces choses horribles qui nous font tellement de peine, Jésus-Christ, et il dit « Qui est pour moi ? Qui ?» Et ces deux hommes ont fait un signe. Alors ils ont dit « Balancez-la ». Et ils l'ont balancé par la fenêtre. Et elle a été trépignée. Et c'était fini avec quelqu'un qui détruisait le peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, le péché fait des ravages. Et nous n'avons pas à passer des compromis avec le péché. Il faut appeler les choses par leur nom. Des fois, on est tellement doux, tellement tranquille. On dit, oh, mais c'est excusable, ceci, cela. Je reconnais que des fois, j'ai eu cette attitude-là. Jusqu'à ce que le Seigneur me montre, mais non, c'est pas comme ça qu'on peut traiter le péché. Le péché, il a coûté cher à notre Sauveur. Le péché, il l'a conduit à la croix. Et la croix, c'est le seul moyen que le Seigneur a eu pour écraser Satan d'une manière définitive. Et Paul, dans son épître aux Romains, nous rappelle au chapitre 16 et au verset 16, « Mes frères et sœurs, bientôt le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. » C'est pas lui à nous dominer, c'est à nous à le vaincre. Et c'est la raison pour laquelle cette femme n'a pas accepté que sous sa tente, dans sa maison, eh bien, l'ennemi ait le dessus. Elle l'a terrassé. Je ne sais pas ce qui peut se passer dans vos demeures, dans vos maisons, tout ce qu'il peut y avoir. Mais une chose est certaine, c'est que chacun d'entre nous, nous sommes responsables de ne pas laisser le malin triompher par quoi que ce soit dans notre vie. Et nous devons, avec le secours du Saint-Esprit, le nom puissant de Jésus que nous invoquons si souvent et dont il est dit dans l'Écriture que le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et s'y trouve en sécurité. Et avec toutes les promesses de Dieu, nous devons aller de l'avant. Ne nous laissons pas intimider, ne nous laissons pas terrasser, mais prenons en main les armes que Dieu a mises à notre disposition, cette lance du nom de Jésus et ce marteau de la parole de Dieu, et sans crainte, allons de l'avant. Chemin détourné, pour dire quelques mots avant que je termine, eh bien, c'est tout simplement ce qui, si souvent, est présenté dans l'Écriture. Par exemple, Paul dit dans 2 Timothée, au chapitre 4, verset 4, « Les hommes se détourneront de la vérité. » Dans des temps difficiles, comme cela, ils se donneront une foule de docteurs pour entendre des choses agréables. Vous savez, on aime bien être caressé dans le sens du poil. Et voyez-vous, c'est ce qui arrive à certaines personnes qui ne veulent que ça. Non, la vérité, c'est la vérité. Et la parole de Dieu, elle doit être toujours pour nous une source de joie, même quand elle nous révèle certaines choses, qu'elle nous touche comme ça de près et qu'elle met le doigt sur certaines plaies de notre cœur. Ce n'est jamais pour nous enfoncer définitivement. C'est simplement parce que Dieu nous aime. Et comme il nous aime, alors il nous révèle certaines choses pour que nous puissions aller dans le bon sens. Dans Ézéchiel, au chapitre 3 et au verset 20, il est dit, écoutez bien ceci, si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal,
Je mettrai un piège devant lui et il mourra. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 6, mais j'ai déjà cité une partie de ce verset, au verset 20, il est dit « Oh Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont détournés de la foi. » On peut se détourner donc de la vérité, on peut se détourner de la foi, on peut se détourner de la voie de la justice. Et Saül, il s'est détourné de Dieu lui-même. Et ça lui a coûté la vie. Réfléchissez à toutes ces choses-là. Où en sommes-nous? Chacun de nous doit se poser la question, où est-ce que j'en suis? Est-ce que c'est la vérité qui règne en moi? Ou c'est tout simplement... Comme ça, la vie religieuse. Écoutez, mes frères et sœurs, nous aurons toujours un grand bénéfice à être soumis à la parole et que Christ soit vraiment le roi de notre cœur. Voulez-vous que nous lui demandions qu'il règne sur nos vies? Alors on va prier. Règne en moi. Roi puissant, règne en moi, règne en moi. Roi puissant, règne en moi. Vigne de mon cœur, viens régner, Seigneur. Que ta volonté soit faite à jamais. Règne en moi, roi puissant, règne en moi. Règne en moi, roi puissant. Seigneur, nous n'avons qu'un cœur, comme autrefois nous le chantions, fatigué de souffrir à t'offrir. Mais Seigneur, ce que nous sommes, et toi tu nous connais mieux que personne, nous le remettons entre tes mains. Pardonne nos turpitudes, pardonne notre péché. Pardonne nos actes de désobéissance, pardonne Seigneur, nos vies. Quand nous considérons ce que toi tu as accompli, ce que tu as fait, Seigneur, nous voyons combien nous sommes loin de ce que tu es en droit d'attendre de nous. Mais Seigneur, il y a une chose que le malin ne peut pas enlever de notre cœur, c'est la certitude que tu nous aimes. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Seigneur, quand nous sommes infidèles, toi tu demeures le même. Seigneur, c'est dans tes bras que nous nous jetons. Je te prie, bénis cette église. Bénis-nous les uns et les autres. Veille sur nous et glorifie-toi. Seigneur, tu connais toutes choses et nous remettons tout à tes pieds. Dieu fidèle, tu as déjà fait tant et tant pour nous, et nous savons que l'œuvre que tu as commencée, dans ta fidélité, tu la rendras parfaite. À toi seul soit la gloire, la louange et l'honneur au siècle des siècles. Amen.